On se tourne maintenant vers le psaume 40. Et est-ce que vous pouvez penser à la dernière fois où vous étiez au fond du trou dans l'impasse pour ce qui est d'un aspect de votre vie, de ta vie? Coincé, pas moyen de s'en sortir. L'expression qu'on trouve dans certaines traductions du psaume 40, c'est « dans la fosse ». Certains d'entre vous sont sans doute dans la fosse maintenant, et ce n'est pas gai. En tant que croyant en Jésus-Christ, lorsqu'on est dans la fosse, on prie Dieu, mais pas seulement. D'après le psaume 40, pas seulement prier Dieu, mais encore autre chose. Nous allons lire le psaume directement. Au chef de cœur, psaume de David. J'avais mis mon espérance en l'Éternel, et s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a établi mes pieds sur le rocher. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu. Ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux et les menteurs. Éternel, mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes plans en notre faveur. Personne n'est comparable à toi. Je voudrais les raconter et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour en faire le compte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire ta volonté, mon Dieu. C'est ce que je désire et ta loi est gravée au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne dissimule pas ta justice dans mon cœur. Je proclame ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Oui, tes maux sans nombre m'environnent. Je subis les conséquences de mes fautes et je ne supporte pas la vue. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, Éternel. Éternel, viens vite à mon secours. Que tous ensemble, ils soient honteux et rougissent, ceux qui cherchent à m'enlever la vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient pétrifiés de honte, ceux qui me disent « Ah, ah, ah !» Que tous ceux qui me cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Que l'Éternel est grand !» Moi, je suis pauvre et malheureux. Mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu. Ne tarde pas. Prions ensemble. Nous te glorifions, notre Dieu, notre Père, car tu es un grand Dieu, comme on vient de le lire. Nous te demandons d'agir par ta parole puissante au profit de tes enfants qui sont au fond du trou. Et au profit de ceux qui ne le sont pas actuellement, mais qui risquent de l'être à un moment ou à un autre. que notre examen du psaume 40 ne soit pas en vain pour qui que ce soit dans cette salle. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. David avait été au fond du trou, dans la fosse, au fond de la boue. Si tu connais le Mont Saint-Michel, peut-être que tu es au courant du danger de s'enliser dans les sables mouvants de la baie là-bas. David se trouve, pour ainsi dire, enfoncé dans des sables mouvants. Dieu l'a retiré de là, a établi ses pieds sur le rocher et a mis dans sa bouche un cantique nouveau. Et nous sommes dans la première partie du psaume que j'intitule « Louange, louange », les versets 2 à 6. Ça avait été quel type de fosse pour David? Nous ne le savons pas. Il n'y a pas d'indication dans les Écritures comme quoi David avait été comme Joseph ou Jérémie ou Daniel, littéralement au fond du trou. Mais le langage du verset 2 fait écho au langage de l'avant-dernier verset du psaume précédent. Et le psaume précédent, comme d'autres psaumes de cette partie du livre des psaumes, parle de trois problèmes. Le péché, les fautes de David, des ennemis, des personnes qui s'opposent à David et des maladies. On retrouve le péché et les ennemis dans ce psaume 40. Et donc je pense que la fosse pour David peut être ses propres péchés qu'il n'arrive pas à mettre à mort. Des personnes qui attaquent David sans arrêt. Des maladies tenaces par lesquelles il passe. Peut-être même les trois ensemble. David a dû persister dans la prière. Il a dû attendre. Les psaumes qui précèdent soulignent cela, cette attente, une attente patiente. Mais le verset 2. J'avais mis mon espérance dans l'Éternel. Il s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a établi mes pieds sur le rocher. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Et ce psaume est précieux également pour nous qui nous trouvons dans la fosse. Nous qui sommes croyants, je veux dire. Est-ce que vous voyez dans le verset 4 et dans le verset 5 que le psaume élargit la perspective pour parler de toute personne qui se confie en Dieu? Verset 5, heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux et les menteurs. Peut-être que toi, tu es dans la fosse maintenant, en train de supplier Dieu d'agir, en train d'attendre patiemment. Peut-être qu'il y a des moqueries dans le lieu de scolarité ou de travail ou dans le voisinage, des péchés récurrents que tu n'arrives pas à mettre à mort, des circonstances impossibles, une difficulté relationnelle apparemment sans solution, la dépression, une maladie chronique, de l'hostilité provenant d'un membre de la famille parce que tu es croyante ou croyant, une solitude ou un célibat éprouvant, un problème financier. Il n'y a pas de garantie que Dieu te sortira du fond de la boue. Parfois, Dieu choisit de nous accorder les forces permettant de rester dans la fosse sans craquer. Dieu n'a pas retiré les chardes dans la chair de Paul. Et pourtant, toute croyante, tout croyant a un témoignage qui rime avec les versets 2 à 4. Je me souviens d'un frère en Australie qui a donné son témoignage. Il avait trouvé le pardon de ses fautes. Et ce jeune homme a cité ces versets 2 à 4 qu'il connaissait par cœur. C'était émouvant. Il rayonnait de joie et de reconnaissance envers Dieu. Il parlait du fait d'avoir maintenant les pieds sur le rocher, d'avoir les pas affermis, d'avoir un nouveau cantique dans la bouche. Et tout le monde dans la salle pouvait le constater. Le fait d'être en règle avec Dieu lui était tellement précieux. Ce n'était pas simplement de la théorie. Ça avait percolé jusqu'au cœur. Notre association d'église et l'Institut biblique de Bruxelles aussi plongent leurs racines dans l'œuvre d'un certain Ralph Norton et l'œuvre aussi de son épouse Edith. Ce couple a pris soin de soldats blessés durant la Première Guerre mondiale. Et ils ont annoncé l'évangile à ces soldats. L'un de ces soldats a écrit ainsi au Norton. Je n'arrive pas à trouver les mots pour exprimer ma reconnaissance pour le fait de m'avoir tiré de la boue dans laquelle j'étais tombé. Difficile de trouver les mots pour remercier les Norton. Encore plus difficile de trouver les mots pour remercier Dieu, mais les versets 2 à 4 nous aident, n'est-ce pas, à exprimer ce qui s'est passé lorsque nous nous sommes tournés vers Dieu pour recevoir le cadeau qu'est le pardon de nos fautes, lorsque nous avons compris que Jésus-Christ est mort sur la croix à notre place pour porter la punition que nos fautes entraînent, comme nous venons de le célébrer en lien avec le repas du Seigneur. Vendredi matin et vendredi après-midi, j'ai eu des rendez-vous séparés avec des frères qui sont dans la fosse. Tous deux des frères mûrs, zélés, talentueux, serviteurs de la parole à différents degrés. Tous deux en larmes. Je souffre pour eux. Je prie pour eux. Mais je me suis permis aussi de faire écho à ce psaume en leur présence en priant conformément aux versets 2 à 4, en mettant devant leurs yeux cette vérité centrale. Qu'est la croix. Car nous pouvons être dans toutes sortes d'impasses et cela peut être extrêmement douloureux et éprouvant. Mais si nous sommes croyants, si le problème de notre rébellion contre Dieu est réglé, les autres problèmes sont relativement mineurs. En plus d'être temporaire. Si tu n'es pas encore au bénéfice de la mort de Jésus-Christ, ne tarde pas. Ne tarde pas à régler cela, parce que c'est là ton seul problème majeur. Il suffit d'agir comme dans le verset 5, te confier en Dieu, cesser de te tourner vers les orgueilleux et les menteurs. Cessez de croire des mensonges du genre « il faut être populaire pour être heureux. Il faut gagner beaucoup d'argent C'est ça qui m'apportera le bonheur. Les relations sexuelles hors mariage avec qui on veut, cela apporte un bonheur profond. Des mensonges. Cessez de croire des mensonges du genre « Toutes les religions se valent, tout le monde sera sauvé des mensonges. » C'est la parole de Dieu qui régente dorénavant ta vie, tes convictions, tes pratiques. Et alors Dieu mettra un chant de louange dans ta bouche. Et sous peu, tu seras comme tant d'autres dans cette salle, conscient d'être dépassé par toutes les merveilles que Dieu accomplit dans notre vie. Verset 6, « Éternel mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes plans en notre faveur. Personne n'est comparable à toi. Je voudrais les raconter et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour en faire le compte. » David loue Dieu pour le fait de l'avoir tiré de la fosse. Mais ce n'est pas tout. Il se reconsacre à Dieu. Il s'abandonne à Dieu. C'est la deuxième section du psaume, la consécration. La consécration, les versets 7 à 12. Il est vrai que le croyant se reconsacre tous les jours à Dieu. Pour l'exprimer selon les termes de Luc 9, 23, nous nous chargeons chaque jour de la croix en suivant Jésus-Christ. Mais prendre à nouveau la résolution de vivre pour la gloire de Dieu, c'est une démarche particulièrement appropriée une fois que Dieu a répondu à nos prières. Dieu met dans notre bouche un cantique nouveau et parallèlement à cela, nous nous soumettons à Dieu pour faire sa volonté. Dans les versets 7 à 9, David exprime cela selon les termes du régime qui était en vigueur à cette époque-là. Lisons à partir du verset 7. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens dans le rouleau de livres, il est écrit à mon sujet, pour faire ta volonté, mon Dieu. C'est ce que je désire et ta loi est gravée au fond de mon cœur. Je paraphrase et je résume les différents sacrifices qu'il fallait offrir dans le cadre de l'ancienne alliance, de l'ancien régime. Ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est un cœur obéissant. Les rites externes en eux-mêmes n'ont jamais été ce que Dieu recherche. On a entendu dans la prière du début prononcée par Patrick, l'importance, n'est-ce pas, d'un cœur engagé. Le formalisme religieux, si le cœur n'est pas engagé, non, non. Chanter ce matin comme on l'a fait, simplement parce que c'est ce que tout le monde fait, on chante, non. Ce n'est pas la même chose que chanter parce qu'on est convaincu que les paroles sont vraies et parce qu'on est heureux de vivre la relation avec Dieu, le cœur engagé. Nous lisons dans le verset 7 que Dieu a ouvert les oreilles de David. Au regard de certains versets dans le Deutéronome, nous savons que cela veut dire que Dieu a donné à David la capacité de comprendre et la capacité d'obéir. Concrètement, qu'est-ce que cela va vouloir dire pour David, avoir le cœur disposé à obéir à Dieu? S'agit-il de mettre en pratique la loi de Moïse? Certainement, il mentionne le fait que la loi est au fond de son cœur, n'est-ce pas, à la fin du verset 9. Mais plus précisément, David a sans doute en tête une partie de la loi de Moïse qui le concerne particulièrement. Vous voyez à la fin du verset 8, dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, le concernant en tant que roi. Il y a un passage dans Deutéronome 17 qui précise que le roi ne doit pas accumuler beaucoup de chevaux, ne doit pas prendre beaucoup de femmes, ne doit pas amasser beaucoup d'argent. Il est aussi stipulé qu'il doit copier la loi de Moïse à la main. Pas possible de scanner ou de photocopier à l'époque. Cela vous est-il arrivé de devoir copier des lignes et des lignes? Des lignes, peut-être en punition. Ici, ce n'est pas une punition. Le roi doit connaître la loi. Il doit la lire tous les jours et la mettre en pratique. La barre est placée haut, comme le saut en hauteur, 2,50 m. Ça, c'est au-delà du record mondial. Mais David l'affirme. Le verset 9, « Ta loi est gravée au fond de mon cœur. » En clair, ce qui est en train de se passer, c'est que David se reconsacre à Dieu. Il n'est pas en train de décrire ce qui se passe dans la pratique. Vous le savez bien, David n'a pas été à la hauteur en tant que roi. La consécration de David était loin d'être parfaite. Il n'y a qu'à penser à l'adultère avec Bathsabée et au meurtre d'Uriah. Et une question importante se pose. Comment David peut-il parler à la manière des versets 11 et 12? Vous voyez? Je ne dissimule pas ta justice dans mon cœur, je proclame ta vérité et ton salut, je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions, ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Comment David peut-il légitimement parler du salut de Dieu, de la bonté fidèle de Dieu, des compassions de Dieu, dont il est le bénéficiaire alors qu'il n'est pas à la hauteur? Eh bien, une partie de la réponse. Dieu a fait des promesses grandioses à David concernant sa royauté. Dieu allait établir le trône de David pour toujours. Malgré ses péchés, malgré ses ennemis, malgré ses maladies, Dieu tiendra ses promesses. Mais il reste une question concernant les péchés de David. Et David mentionne ses péchés comme étant un problème dans le verset suivant, dans le verset 13. Et il a compris, on l'a lu dans le verset 7, il a compris que les différents sacrifices ne sont pas vraiment ce qui compte pour apporter le pardon, même pas les sacrifices pour le péché. Est-ce qu'on a besoin de relire les versets 7 à 9? Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu me demandes ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire, et ta loi est gravée au fond de mon cœur. Lisons maintenant l'Épître aux Hébreux, le chapitre 10 et le verset 4. Il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Si les sacrifices ne règlent pas le problème des fautes, qu'est-ce qui peut régler le problème? Eh bien, nous le savons déjà, Le texte du psaume 40 le dit. On a besoin d'un cœur obéissant. Mais qui a ça? Qui a ça comme il le faudrait? Continuons la lecture dans Hébreux 10. C'est pourquoi, Hébreux 10, 5, c'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu as formé un corps. Tu as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il a d'abord dit, tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Et ensuite, il a déclaré, « Me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et vous avez entendu dans cette lecture une partie de notre psaume, du psaume 40, ce que David a déclaré, Jésus-Christ a pu le déclarer dans un sens plus fort, plus total, plus durable. Lui avait un cœur parfaitement obéissant. Oui, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a changé un mot, a changé le mot « oreille » en « corps », sans doute parce que ça aurait été plus facile à comprendre pour ces lecteurs qui n'ont pas la même langue et les mêmes expressions que le texte du psaume 40, mais ce n'est pas un grand problème. L'oreille qui écoute en vue d'obéir et le corps qui obéit ses proches. Et Jésus accomplit ce qui n'est pour David qu'une aspiration. Le roi David désire plaire à Dieu. Le fils de David, le roi des rois, Jésus-Christ, a toujours plu à son père. David est l'ombre. Jésus, la réalité. L'obéissance dont Jésus fait preuve met fin, on vient de lire, met fin au régime des sacrifices pour le péché, parce que par son sacrifice, le problème des péchés est réglé. Et nous venons de célébrer cela. Ce qui fait que Dieu peut, par avance, faire preuve de compassion envers David. Et il peut faire preuve de compassion envers nous croyants. Certes, David n'a pas compris tout ce que nous comprenons grâce à l'Épître aux Hébreux, mais il savait qu'il pouvait compter sur la bonté, la fidélité, la compassion de Dieu à son égard. Nous avons le privilège supérieur par rapport à David de pouvoir contempler la croix comme on vient de le faire et d'être encore plus assurés que nous pouvons compter sur la bonté, la fidélité, la compassion de Dieu à notre égard. Mais ça ne veut pas dire que nous cessons d'avoir pour but de plaire à Dieu. Au contraire, nous nous consacrons continuellement à Dieu, et surtout après des exaucements particuliers, si on veut être en phase avec ce psaume. Et cela ne veut pas dire non plus que nous ne nous retrouverons jamais dans la fosse durant cette vie. Au contraire. Et David non plus. Ce qui nous amène à la dernière partie, la supplication. La supplication dans les versets 13 à 18. Oh, beaucoup d'experts ont beaucoup de mal avec cette dernière partie pour différentes raisons. L'une des difficultés, peut-être la plus grande des difficultés, c'est que à l'intérieur de ce même psaume, David loue Dieu pour le fait de l'avoir retiré de la fosse et supplie Dieu de le délivrer. Les deux en même temps. Est-ce que David a été retiré de la fosse ou est-ce qu'il est encore dans la fosse? Nous avons déjà vu qu'il n'est plus dans la fosse. Pourquoi alors la dernière partie du psaume? Comment est-ce qu'il peut être en train de demander la délivrance? Vous voyez le problème? Verset 14. « Veuille me délivrer, Éternel, Éternel, viens vite à mon secours. » Et le verset 18, tout à la fin. « Mon Dieu, ne tarde pas. » Personnellement, je ne trouve pas que ce soit une grande difficulté parce que les fosses sont malheureusement nombreuses. On peut être vite coincé à cause de ses propres péchés, à cause d'autres personnes qui nous donnent du fil à retordre, à cause de difficultés de santé ou d'autres circonstances encore. Qu'est-ce qui empêche que David soit déjà dans une autre fosse? Comme l'écrit l'un des commentateurs, c'est régulièrement l'expérience des croyants mûrs qu'une délivrance particulière et la confession des péchés sont suivies de persécutions particulières et d'une prise de conscience renouvelée du péché. Autrement dit, être dans la fosse, c'est une expérience qui risque de revenir et revenir et revenir. Et parfois, lorsque nous touchons le fond, crier à Dieu, c'est presque tout ce que nous réussirons à faire. Au secours, c'est déjà bien. Mais si nous sommes en phase avec ce psaume, ce n'est pas tout ce que nous ferons. Est-ce que vous voyez dans le verset 17 que ce qui est vrai pour David l'est pour les croyants en général, que tous ceux qui te cherchent, vous voyez? Est-ce que vous voyez que même dans la fosse, même au fond du trou, même dans la boue, il convient d'être dans l'allégresse et de dire que l'Éternel est grand. Verset 17, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse que l'Éternel est grand. De le dire même sans cesse, vous le voyez. Et moi, je sais que je n'ai pas suffisamment eu le souci que le nom de mon Dieu soit loué. Ce psaume 40 m'aide à revoir ma copie. En attendant le jour, il n'y aura plus aucune fosse possible. Je voudrais emboîter le pas à David en ayant le réflexe non seulement de crier « Au secours !» mais encore et en même temps de dire aux autres que notre Dieu est grand. Je peux le faire même dans la fosse. Parce qu'il y a eu des exaucements par le passé, lorsque j'étais dans la fosse. Et je peux le faire même sans savoir si Dieu me tirera de la fosse. Parce que mon problème majeur a été réglé à la croix. À la croix. Par le sacrifice de Jésus-Christ à ma place. Et dans le cas où Dieu me tirerait de la fosse, eh bien, je loue Dieu conformément à la première partie du psaume. Et je me reconsacre à Dieu conformément au milieu du psaume. J'ai le privilège d'avoir des moments de prière en binôme avec différents amis à différentes fréquences. J'ai souvent remarqué qu'alors que moi je fonce pour présenter des requêtes à Dieu, eux foncent pour louer Dieu pour qui il est, pour ce qu'il a fait. J'ai pu dire à l'un de mes amis, j'espère l'avoir encouragé, j'ai pu lui rappeler qu'il avait été, à un moment donné, dans la dépression, dans la fosse. Et il avait l'habitude de dire, c'est un psaume vraiment pas loin de celui qui nous intéresse, il disait, psaume 42, verset 12, « Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Il disait ça lorsqu'il était déprimé. J'ai pris la résolution d'être plus comme mes amis. Je veux maintenir mon élan pour me tourner vers Dieu en prière, en supplication. Mais je veux conjuguer cela avec un élan pour louer Dieu. Durant ma préparation, j'ai pris connaissance des épreuves par lesquelles passe un frère en France. On va l'appeler Robert. Son épouse l'a quitté. Il est aussi privé injustement, d'après tout ce que j'ai pu comprendre en tout cas, privé de la garde de ses enfants, ayant été accusé injustement de violence conjugale. Mais voici ce que dit Robert. Je cite, « Dans toutes ces épreuves tellement difficiles, je suis tellement reconnaissant du travail que Dieu a fait et continue de faire dans ma vie. Malgré cela, Dieu reste fidèle dans toutes choses et connaît le meilleur pour ses enfants. Quel privilège de le connaître !» J'ai aussi pris connaissance du témoignage d'une croyante persécutée qui vient d'Érythrée, Hélène. Citation d'un livre qui explique le cas d'Hélène. Elle avait été enfermée dans un conteneur maritime pendant 30 mois. Hélène avait été emprisonnée alors qu'elle avait décidé de partager l'Évangile de façon clandestine. Le conteneur était infesté de puces et de poux. Les détenus gelaient la nuit et suffoquaient de chaleur le jour. Hélène était chanteuse de gospel et avait décidé de continuer à louer Dieu au milieu de la souffrance. Cette Érythréenne aimait beaucoup se rappeler que les chrétiens ne peuvent arrêter de louer Dieu dans la tourmente. Dieu a mis ce chant dans sa bouche et elle avait à cœur de chanter les louanges de Dieu, même dans la fosse. Où on pense aux paroles d'un chant connu. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Et béni soit ton nom sur la route semée de souffrances. S'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes. Et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, ô béni soit ton nom.